Trois hommes dans un bateau, de Jérôme K. Jérôme. Chapitre 1. Nous étions quatre. Georges, William Samuel Harris, moi et Montmorency. Installés dans mon appartement, nous fumions en causant de notre triste état. Je dis triste au point de vue médical, cela va de soi. Nous avions tous, à notre inquiétude croissante, la sensation d'être usés. Harris nous raconta qu'il était sujet par moments à de singuliers vertiges qui lui faisaient perdre toute conscience de ses actes. Puis Georges dit que lui aussi avait des accès de vertige et ne savait plus ce qu'il faisait. Quant à moi, c'était mon foie qui n'allait pas, à cause que je venais justement de lire à propos de pilules brevetées pour le foie, une réclame où se trouvaient énumérés les divers symptômes permettant de reconnaître que l'on a le foie détraqué. Je les avais tous. Nous passâmes une demi-heure à nous décrire nos maladies réciproques. Je racontais à Georges et à William Harris ce que j'éprouvais le matin au saut du lit, et William Harris nous raconta ce qu'il éprouvait à l'heure du coucher. Et Georges se livra sur la carpette du foyer à une pantomime ingénieuse et frappante pour nous faire comprendre ce qu'il éprouvait la nuit. Georges se figure qu'il est malade, mais ça n'a jamais été chez lui que de l'imagination comme bien on pense. Sur ces entrefaites, Madame Popette vient frapper à la porte et demanda si nous étions prêts à souper. Tout en échangeant un sourire amer, nous répondîmes qu'après tout, nous allions essayer d'avaler quelques bouchées. Harris ajouta qu'un petit quelque chose dans l'estomac empêchait souvent de tomber malade. Et Madame Popette, nous ayant apporté le plateau, nous nous mîmes à table pour chipoter un peu de rhum steak aux oignons et de la tarte à la rhubarbe. Je devais être à cette époque des plus débilités, car il m'en souvient, une demi-heure à peine s'était écoulée que je ne me souciais plus de manger le moins du monde. Phénomène insolite chez moi, et je ne pris pas de fromage. En ayant fini avec ce devoir, nous remplîmes nos verres, allumâmes nos pipes et reprîmes notre discussion sur l'état de nos santé. De quoi nous souffrions en réalité, aucun de nous n'aurait pu le dire au juste, mais l'opinion unanime fut que le mal, d'une nature ou d'une autre, était dû au surmenage. « C'est de repos que nous avons besoin, » dit Harris. « De repos et d'un renouvellement complet, » dit Georges. « Une tension du cerveau excessive a entraîné chez nous une dépression générale de l'organisme. Le changement de milieu, la suppression de toute cause de soucis rétabliront l'équilibre psychique. » Georges possède un cousin qui s'inscrit à l'ordinaire sur les registres d'hôtel comme étudiant en médecine. Aussi, notre ami semble tenir tout naturellement de famille sa façon doctorale d'exposer les choses. Je me rangeais à l'avis de Georges et proposais de nous mettre en quête d'un coin bien suranné, à l'écart de la foule démente, et d'y rêver au passé toute une radieuse huitaine parmi ces rues endormies. Quelques petits trous désuets conservés par les fées à l'abri du tourbillon du monde. Quelques trous d'aigles anachroniquement perchés sur les falaises du temps, du haut desquels on entend à peine, atténué par la distance, l'assaut des vagues du 19e siècle. Harris déclara qu'à son avis ce serait crevant. Il connaissait trop le genre de patelin que je voulais dire. Où un chacun va se coucher dès 8 heures, où il est impossible de se procurer un journal de course, et où il faut faire une promenade de 10 miles pour avoir son tabac favori. Non, dit Harris, si vous tenez au repos et au changement, rien qui vaille un voyage en mer. Je m'opposais résolument au voyage en mer. Le voyage en mer vous profite quand vous vous en payez durant une couple de mois, mais pour une semaine il ne vaut rien. Vous partez le lundi, avec l'idée bien arrêtée que vous allez vous divertir. Vous envoyez des adieux protecteurs aux amis du quai, allumez votre plus grosse pipe et arpentez le pont aussi crâne que si vous étiez le capitaine Cook, Sir Francis Drake et Christophe Colomb réunis. Le mardi, vous préféreriez être ailleurs. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, vous souhaitez être mort. Le samedi, vous êtes en état d'avaler quelques gouttes de consommé, de vous asseoir sur le pont et de répondre avec un pâle sourire aux gens compatissants qui vous demandent des nouvelles de votre santé. Le dimanche, vous recommencez à vous promener et à absorber des nourritures solides. Et le lundi matin, lorsque valise et parapluie à la main, vous vous tenez à la coupée prêt à débarquer, vous êtes pris du plus bel amour pour la navigation. Ceci me rappelle mon beau-frère, qui était allé faire un voyage en mer pour sa santé. Il prit un aller et retour de cabine Londres-Liverpool, et arrivé à Liverpool, il n'avait plus qu'un désir, c'était de revendre son retour. Une autre de mes connaissances entreprit un voyage d'une semaine au long des côtes. Avant le départ, le maître d'hôtel vint demander au voyageur s'il aimait mieux payer ses repas au fur et à mesure ou s'arranger à forfait d'avance pour la série entière. Le maître d'hôtel lui vanta cette dernière combinaison comme beaucoup plus économique. Il dit qu'il lui ferait la semaine complète à 2 livres 5 shillings. Il dit qu'au petit déjeuner, il y avait du poisson suivi d'un rôti. Le déjeuner était servi à 1 heure et comprenait 4 plats. Le dîner à 6. Potage, poisson, entrée, plat de viande, volaille, salade, entremets, fromage et dessert. Plus un léger souper froid à 10 heures. Mon ami crut devoir s'en tenir au système des 2 livres 5 shillings. Il est gros mangeur. Et il l'adopta. On servit le déjeuner juste au large de Sheerness. Il se sentait moins d'appétit qu'il ne l'aurait imaginé. Aussi se contenta-t-il d'une tranche de bouillie et de quelques fraises à la crème. Il fut très méditatif tout l'après-midi. Tantôt, il lui semblait n'avoir rien mangé que du bouilli depuis des semaines, et d'autres fois, il se figurait avoir vécu de fraises à la crème pendant des années. Pas plus le bœuf que les fraises à la crème ne semblait satisfait d'ailleurs. On les eut dit en révolte. À 6h, on vint l'avertir que le dîner était servi. Cette annonce n'éveilla en lui aucun enthousiasme. Mais il considéra qu'il lui fallait venir à bout de ses 2 livres 5 shillings et, se cramponnant à des cordages et autres objets, il descendit au restaurant. Une agréable odeur d'oignons et de jambon fumant combinée à celle du poisson frit et des légumes l'accueillit au bas de l'escalier. Et alors le maître d'hôtel apparut avec un sourire onctueux et demanda « Que puis-je vous apporter, monsieur ?»« Emportez-moi hors d'ici, » répliqua-t-il défaillant. On l'emmena dardard en haut et on le cala penché sur la lisse de tribord où on le laissa. Durant les 4 jours qui suivirent, il se mit à un régime simple et inoffensif, biscuit d'officier léger. Léger s'appliquant aux biscuits, non aux officiers, et limonade gazeuse. Mais le samedi arrivé, il se remonta un peu et se mit au thé léger et au rôti sans beurre. Et le lundi, il se gorgeait de bouillon de poulet. Il quitta le bateau le mardi, et ce fut d'un regard plein de regrets qu'il le vit s'éloigner du débarcadère. « Le voilà qui s'en va, » pensa-t-il. Il s'en va en portant à son bord pour 2 livres de nourriture qui est à moi et que je n'ai pas eu. Il affirme toutefois que s'il avait disposé d'une journée de plus, il en aurait pris pour son argent. Je m'opposais donc au voyage en mer. Non pas comme je leur expliquais à cause de moi, je n'étais jamais indisposée. Mais je craignais pour Georges. Georges affirma qu'il se porterait parfaitement et qu'il aimait beaucoup la mer. Mais que, à son avis, Harris et moi ferions mieux de ne pas y songer, car il était assuré que nous serions tous les deux malades. Harris déclara que pour lui, ça avait toujours été un mystère de savoir comment s'y prenaient les gens qui étaient malades en mer. Il devait le faire exprès par pause. Lui-même avait bien souvent désiré l'être, mais il n'y était jamais parvenu. Puis il nous conta des anecdotes. Comment il avait fait la traversée du Pas-de-Calais un jour où la mer était démontée, au point qu'on avait dû amarrer les passagers dans leurs couchettes, et comment lui et le capitaine étaient les 2 seuls êtres vivants qui ne furent pas malades. Parfois c'était lui et le second qui n'étaient pas malades. Mais c'était toujours lui et un autre. Quand ce n'était pas lui et un autre, c'était lui tout seul. C'est un fait à remarquer. Personne n'a jamais le mal de mer à terre. En mer, vous rencontrez des tas de gens très malades pour de bon, par cargaison entière. Mais je n'ai pas encore trouvé jusqu'ici un homme à terre qui ait jamais su le moins du monde ce que c'était d'avoir le mal de mer. Où ces myriades de matelots d'eau douce qui encombrent chaque bateau peuvent bien se cacher quand ils sont à terre, c'est pour moi un problème. Pour mon compte personnel, j'ai découvert un excellent préventif contre le mal de mer. C'est de se balancer. Vous vous tenez au centre du pont, et quand le bateau roule ou tangue, vous penchez le corps par ici ou par là, de façon à rester toujours vertical. Quand le bateau relève la proue, vous vous inclinez en avant jusqu'à ce que le pont touche presque à votre nez. Quand c'est l'extrémité postérieure qui monte, vous vous inclinez en arrière. Bon, cela va très bien pendant 1 heure ou 2, mais on ne peut pas se balancer toute une semaine. Georges proposa « Si nous remontions la Tamise, nous aurions air pur, exercice et repos. Le perpétuel changement de décor occuperait nos esprits, y inclus ce qu'en possédait Harris. Et l'exercice violent nous donnerait bon appétit et bon sommeil. » Au dire de Harris, Georges devait éviter tout ce qui était susceptible de contribuer à le faire dormir plus qu'à son ordinaire, car cela deviendrait dangereux. Il ne voyait pas très bien comment Georges pourrait arriver à dormir plus qu'il ne faisait déjà, vu que les jours comportaient seulement 24 heures étaient comme hiver, mais à son avis, s'il dormait en effet davantage, être mort lui reviendrait au même, et lui économiserait d'ailleurs sa pension et son logement. À part cela, conclut Harris, la Tamise lui convenait. À moi aussi donc, la Tamise me convenait. Le seul qui ne fut pas emballé par la proposition était Montmorency. Montmorency ne se souciait guère de la Tamise. « Cela va très bien pour vous, les amis, » dit-il. « Vous l'aimez, mais moi pas. Je n'y vois rien d'intéressant. Le paysage n'est pas dans mon genre et je ne fume pas. Si j'aperçois un rat, vous refusez d'atterrir. Et si je tente de dormir, vous faites aussitôt des bêtises avec le bateau et me flanquez à l'eau. Tout cela, si vous voulez savoir, pour moi, c'est de la plus parfaite ineptie. » Mais nous étions 3 contre 1, et la proposition l'emporta.
Thank you.